Monsieur Roberge, vous êtes là?
Oui.
Oui, merci d'être là, Monsieur Roberge, Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci beaucoup pour votre temps ce matin.
Ça me fait plaisir. Je suis content d'être en ligne. On a eu une petite difficulté à communiquer, à établir la ligne, mais j'y suis.
Bien, on est très heureux que vous soyez là aussi. Vous nous aviez mentionné à l'émission, quoi, voilà, une semaine et demie à peu près, que vous alliez présenter jeudi dernier, dans ce cas-ci, votre plan sur 4 ans en immigration. Monsieur Roberge, quels sont les éléments principaux qui ont guidé vos décisions pour ce plan-là?
L'élément principal, c'est la présence de plus de 620 000 migrants temporaires, qu'on appelle les résidents non permanents sur le territoire québécois. On peut pas dire que c'est un phénomène rare, c'est un phénomène jamais vu, n'a jamais eu même proche d'une situation qui s'approche de ça. Donc, c'est énorme, c'est incontrôlé, ça vient en très, très grande partie du gouvernement fédéral. Ces temporaires-là sont sous l'égide du gouvernement fédéral et faut tenir compte de toutes ces personnes-là qui utilisent les logements, qui envoient des enfants à l'école, qui utilisent les soins de santé. Et en tenant compte de ça, on a proposé des scénarios donc de réduction de nos temporaires à nous qui relèvent du Québec et des cibles aussi pour les immigrants permanents, là, ceux qui deviennent des Québécois.
Pour ce qui est des cibles là, en immigration permanente, on parle d'entre 25 000 à 45 000 là, personnes immigrantes par année. À quel moment le chiffre va se décider pour 2026? Est-ce que c'est après justement les commissions parlementaires là, de l'automne?
Exactement. Là, l'appel à mémoire est ouvert, comme on dit. Les gens peuvent prendre connaissance des documents sur Internet, sur québec.ca, envoyer des mémoires pour ceux que ça intéresse, pour les groupes, les experts. Donc, ça va jusqu'au mois d'août. Après ça, en septembre, on aura une commission parlementaire. On pourra écouter les groupes. Et en octobre, le gouvernement décidera, tranchera. Mais on sait déjà que ça sera quelque part entre 25 000 et 45 000. On a mis sur la table, comme vous avez dit, 3 scénarios.
Monsieur Roberge, on a jasé un petit peu plus tôt avec Frédéric Boisvert, le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Il nous partageait ses inquiétudes par rapport à votre plan sur la vitalité économique de Québec, surtout chez nos PME du Québec. Est-ce que vous avez eu des réactions dans ce sens-là depuis que vous avez présenté votre plan jeudi dernier?
Oui, absolument. En amont aussi, parce qu'on voit là, la course au Parti libéral du Québec où tous les aspirants chefs en veulent toujours plus des nouveaux arrivants, des immigrants, des temporaires, souvent des gens qui sont à bas salaire. Écoutez, je comprends cette préoccupation-là, mais à un moment donné, faut tenir compte de la capacité d'accueil du Québec. Si vous avez des enfants dans des écoles, vous avez des chances qu'il y ait des classes modulaires dans les cours d'école qui ont été ajoutées, parce qu'on construit des écoles comme jamais au Québec, mais on peut pas prendre le rythme, suivre le rythme actuel. Si vous essayez de louer un appartement, ben vous voyez que on est dans toutes les régions avec un taux d'inoccupation en bas du seuil cible de 3%. On est quelque part entre 1,5 et 2,5%. Donc, pénurie de logements, hausse des loyers. À un moment donné, là, c'est bien beau faire venir des travailleurs sur le territoire québécois, mais ces travailleurs-là ne sont pas que des travailleurs. Ce sont aussi des citoyens qui consomment des services.
J'ai entendu plusieurs experts chemin économique, conseils du patronat, dire on devrait gérer l'immigration par région parce que l'immigration est un grave problème à Montréal, un problème urgent, mais pas nécessairement pour les autres régions du Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui a effleuré votre piste de réflexion?
On en tient vraiment compte pour les immigrants temporaires et on en tient compte aussi pour les permanents. Je vais vous expliquer. Bon, d'abord, notre cible de réduction des migrants temporaires, puis je l'ai écrit très clairement dans une lettre à la nouvelle ministre fédérale de l'Immigration, puis je lui ai dit aussi de vive voix quand je l'ai rencontré, c'est de concentrer les réductions d'immigrants sur le territoire québécois à Montréal et à Laval. Donc, on s'attend à ce qu'Ottawa le fasse dans sa cour, et nous, on a une légère cible de réduction de nos travailleurs étrangers temporaires, de 72 000 à 65 000 sur 4 ans, c'est raisonnable, mais même cette réduction-là, on ne veut pas la faire dans nos régions, on ne veut pas la faire dans des endroits où ces travailleurs-là viennent répondre à des besoins spécifiques dans le domaine manufacturier. On veut encore une fois les faire dans la région de Montréal et à Laval. Il y a déjà beaucoup de main-d'œuvre disponible, beaucoup de demandeurs d'asile sont là, et la langue française est davantage menacée. Donc, on n'a pas une approche mur à mur.
Donc, on n'est pas, M. Roberge, en train d'essayer de gérer une problématique très montréalaise en imposant un plan au reste du Québec?
Mais non, justement, pas du tout, parce que notre approche démographique puis notre approche de régionalisation de l'immigration tient compte du fait que dans beaucoup, beaucoup de régions, on en veut, puis même on en veut davantage des immigrants. Je dirais que la disponibilité, par exemple, de places dans des écoles, ben c'est très, très différent à Montréal, Laval, puis dans le reste du Québec. Je sais qu'il y a plusieurs endroits où des écoles de village peinent à rester ouvertes. Puis on serait bien content d'accueillir 5, 6, 7, 8 familles. Ça pourrait faire la différence pour garder l'école ouverte. Ça n'a rien à voir avec d'autres écoles où on est obligé de dépasser le nombre maximal d'élèves dans une classe, là.
Le Parti québécois, ou du moins Paul Saint-Pierre Plamondon, se vante que là, la CAQ prend à peu près le plan en immigration du Parti québécois pour le mettre de l'avant à l'approche des élections. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait des bonnes affaires dans ce plan-là puis qu'on s'en est inspiré?
Bien, c'est intéressant de voir que le Parti québécois avait proposé, eux, 35 000 permanents par année. On est proche de là parce qu'on a trois scénarios possibles, un à 25 000, un à 35 000. Un à 45 000. Il n'y avait pas la réflexion aussi poussée que la nôtre, par exemple, sur les résidents temporaires, que ce soit les travailleurs, que ce soit les étudiants étrangers, que ce soit les demandeurs d'asile qui relèvent d'Ottawa. Mais ceci dit, des fois, quand il y a des points de convergence, tant mieux, on n'est pas obligé d'être en désaccord sur tout le temps.
On aurait-tu pu agir avant du côté de la CAQ? Ou se, tu sais, quand on regarde ça aujourd'hui, est-ce qu'on se dit on aurait peut-être pu aller plus loin comme ça un petit peu avant?
Mais pas vraiment, parce que on n'a pas perdu le contrôle de notre immigration, particulièrement des temporaires. Là. C'est pas vrai. Donc, dans notre planification, ce qu'on veut, c'est des réductions qui sont ciblées, mesurées et régionalisées, à la fois pour nos étudiants étrangers puis nos travailleurs étrangers temporaires. Nos travailleurs étrangers temporaires du programme québécois, là, ils viennent ici seulement après une analyse d'impact sur le marché du travail pour être sûr que ces personnes-là arrivent et ne remplacent pas un Québécois qui, lui, va rester sur le chômage. Pour le fédéral, il n'y a pas ça. Leur programme mobilité internationale, c'est 230 000 personnes sur le territoire québécois sans analyse d'impact sur le marché du travail. Donc, faut pas regarder l'immigration, et c'est très complexe, mais faut pas la regarder comme un bloc monolithique de « il y en a trop, il y en a pas assez », sans tenir compte des régions, puis sans tenir compte des différents programmes. Donc, c'est pour ça que le cahier de consultation a plus de 100 pages, beaucoup de graphiques, beaucoup de données statistiques, pour avoir une réponse qui est mesurée puis qui répond réellement aux besoins démographiques puis économiques, puis je dirais même linguistiques et culturels.
Je me permets une question sur le congrès des jeunes CAQIS ce week-end qui s'est déroulé à Québec. À quel point la CAQ, puis on ne se le cachera pas, qui est en perte de vitesse dans les sondages, doit se tourner vers sa jeunesse pour réussir justement à renverser cette fameuse tendance?
Nos jeunes de la CAQ, là, la commission de la relève de la CAQ, sont toujours très avant-gardistes. Je les aime beaucoup. Je vais pas mal tout le temps à tous leurs congrès. Cette année, c'était le lendemain du baillon toute la nuit pour garantir aux Québécois des tarifs qui augmentent pas de plus de 3 %. Là, donc, je ne pouvais pas y être. Mais je trouve ça intéressant quand ils brassent la cabane. C'est leur rôle. Puis souvent, ils proposent des choses qu'on finit par adopter. Par exemple, le contrôle des écrans. Ben, c'est notre commission de la relève de la CAQ qui a mis ça en premier dans l'espace public au Québec.
Oui, Monsieur Roberge, est-ce qu'on a une problématique au Québec de grève si on se compare aux autres provinces au Canada?
Ben, écoutez, j'aime ça quand le Québec est premier au classement, puis il est champion, mais pas quand il est premier au classement et champion des conflits de travail puis des jours de grève. Donc, malheureusement, c'est le cas. Moi, je comprends qu'on a un tissu social, économique, distinct. Je sais pas là que le Québec soit un deuxième Manitoba ou un deuxième Ontario, mais des fois, il y a des distinctions qui sont pas très, très glorieuses. Puis je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire par rapport, je vous dirais, au conflit de travail comme on a. Puis je suis content qu'on ait adopté la loi qui vient assurer des services minimaux qui protègent les Québécois contre des grèves qui, des fois, sont abusées.
Durant le congrès des jeunes CAQIS, François Legault a dit « Je peux pas croire que les syndicats votent des mandats de grève à 2 heures du matin, mais au lendemain d'une loi adoptée sous baillon. » Donc, ça a créé là, le rire de certains chroniqueurs. Vous répondez quoi à ces gens-là?
Ouais, ben c'est un peu mince comme comparaison. Ce que notre premier ministre a dit, puis il a raison, c'est que des mandats de grève votés après des procédures des fois un peu douteuses, ce que ça fait, c'est que c'est pas tout le monde qui est présent pour voter. Vous savez, s'il y a 3 000 syndiqués dans une accréditation syndicale, puis qu'à la fin du processus, quand tu votes, je ne sais pas à quelle heure, ben il reste 300 personnes dans la salle, puis c'est la majorité de 300 personnes. Ça fait plus grand monde qui vote, là. Tandis mm-hmm. que la procédure d'exception, qu'on appelle le baillon, quand on l'a voté, là, pratiquement tous les députés étaient là. C'était pas une procédure dans le but que des députés fatigués s'en aillent à la maison et ne votent pas puis soient pas au courant. Là. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on peut pas comparer deux processus.
Oui, par contre, en gouvernement majoritaire, vous saviez que vous pouvez passer la loi et puis vous faites abstraction de la commission parlementaire quand même. Il y a quand même quelque chose que vous déjouez avec ceci, comme les syndicats déjouent leur vote de grève.
Mais je m'excuse, mais on ne peut pas comparer les deux choses. La procédure d'exception, là, qu'on appelle le baillon, ça a été utilisé par tous les gouvernements depuis plus de quoi 40 ans. Le PQ, ça a été le champion de ça. Puis, écoutez, je ne m'offusque pas de ça. Là. C'est juste une procédure qui est prévue, qui est normale et qui n'a rien d'antidémocratique puis qui ne vise pas d'aucune manière à empêcher les parlementaires de voter puis de s'exprimer. Tandis que il y a certains votes, des fois, dans d'autres organisations, qui, à la fin, sont prises par une minorité de membres. À l'Assemblée nationale, là, tous les députés étaient là, sauf peut-être très rares exceptions, puis il n'y avait aucun rapport entre ces deux procédures-là.
Jean-François Roberge est le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration au Québec. Monsieur Roberge, merci beaucoup pour votre temps ce matin. C'est toujours bien apprécié.
Merci. Bonne journée, tout le monde.
Bonne journée.
Jean-François Roberge de la CAQ.
Oui. Il a entièrement raison, par exemple, quand il parle des procédures syndicales, et c'est vrai, là, t'sais, pour déjà avoir parlé avec des employés syndiqués, c'est qu'on étire, on étire, on étire jusqu'à minuit et demi, une heure. Puis là, ceux qui sont contre la grève, souvent, c'est les gens qui ont des jeunes familles puis qui veulent pas partir en grève parce qu'ils veulent encore avoir leur salaire. Mais là, à 1h du matin, ils sont plus capables, ils sont partis parce qu'ils savent que le lendemain matin, à 5h, le petit pout de 2 ans va être réveillé puis il va avoir de l'action dans la maison. Et là, c'est là qu'on vient prendre les votes. Donc, il a raison. Ceci dit, ben moi, vous le savez, je suis contre le baillon. Je trouve que c'est complètement antidémocratique et ça devrait pas avoir lieu dans notre système.
Ben, puis il a raison de dire que ça se compare nécessairement pas.
Ouais.
Tu sais, je comprends. C'est juste que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, mettons, tu connais pas les fins détails du baillon.
Ouais, ouais.
Tu as vu les grandes lignes. C'est peut-être juste le timing du commentaire du premier ministre. Parce que quand tu connais pas exactement c'est quoi le baillon, tu pourrais dire, hey, attends une minute. Tu dis un commentaire comme, ah, tu sais, du monde qui vote pour une grève à 2h du matin, puis il y a eu le baillon, la situation du baillon la veille.
C'est le
timing.
Ça. Là, exactement, c'est le timing. Mais quand même, tu sais, les deux ont le même objectif, c'est-à-dire imposer son rapport de force. Autant le comité exécutif d'un syndicat va étirer pour imposer son rapport de force et imposer son idée de faire une grève, autant le gouvernement fait un baillon dans le but d'imposer une loi pour que ça aille plus vite. Donc, les deux ont cet objectif-là.
Ben d'ailleurs, comment Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois, a vécu cette situation-là de baillon? Il en pense quoi? On va lui en parler après la pause. Red.